Dis-moi comment tu consommes, je te dirai qui tu es. Avant la Covid, on pouvait facilement savoir à quelle génération on appartenait en jetant tout simplement un petit coup d'œil sur nos habitudes d'achat en magasin. Facile, tu as forcément plus de 45 ans. Sur Internet, tu es probablement un trentenaire. Sur téléphone portable, tu es forcément plus jeune. Mais ça, c'était avant. Car la crise sanitaire est venue chambouler toutes nos habitudes. Enfermées à double tour chez nous, il a fallu apprendre à aller faire les courses en ligne, se faire livrer. Pas simple, c'est vrai, pour les baby-boomers, de se convertir à ce lèche-vitrine virtuel. Mais ne nous y trompons pas. Il n'y a pas que pour eux que les cartes ont été rebattues. Car ce mode de consommation subi a même fini par peser sur les millennials. Je suis Raphaël Duchemin et je vous emmène à la découverte du Global Consumer Insight Pulse de PwC. Et vous allez voir qu'à force d'être devant nos écrans, on a repris goût au plaisir de flâner chez nos commerçants.
PwC en direct.
Il y a des études qui sont des baromètres de notre temps. Celle-ci en est une. D'abord parce qu'elle est régulière, telle un métronome, elle revient deux fois par an ausculter le comportement des consommateurs. Et puis, elle est menée aussi sur un large panel, 9370 personnes dans 26 pays, ce qui nous donne un reflet assez précis de la manière dont nous nous comportons. Mais au fait, que se passe-t-il chez nous quand nous zoomons sur la France? On va regarder de plus près avec vous, Hélène Rive, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes associée PwC, responsable de l'industrie distribution et biens de consommation. Et on va regarder aussi avec vous Mathieu Aubusson de Caverley. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Associée PwC, spécialisée sur les questions d'expérience client. C'est avec vous que nous allons décrypter tous les grands enseignements finalement de cette étude. Le premier, c'est peut-être le changement de manière de vivre. Il semble que nos comportements de consommateurs ont durablement changé sous l'effet de la crise sanitaire. Résultat, le consommateur français n'est plus vraiment le même, il redevient plus optimiste et la crise a eu pour effet de le rendre plus sensible aux enjeux écologiques et plus porté vers le do-it-yourself. Cette vigilance, elle est valable, surtout elle se mesure, bah, par exemple, sur certains produits, je pense, et moi ça m'a frappé dans cette étude, sur les produits d'épicerie.
Effectivement, l'étude montre que sur les produits d'épicerie, sur les produits liés à tout ce qui est entertainment à la maison, on a effectivement un optimisme pour les consommateurs à travers l'étude. C'est un peu moins le cas malheureusement sur tout ce qui est entertainment en dehors de la maison, où il y a encore une certaine prudence. Et l'étude, bien sûr, a lieu à la fin de l'année 2021. Donc, bien entendu, tous les événements de la crise d'Ukraine ne sont pas reflétés dans cette étude.
Notre consommateur, il est aussi beaucoup plus attentif au prix et à la fabrication du prix. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi dans le comportement des Français.
Le sujet de la sensibilité du prix, il est aussi lié au fait qu'avec la croissance de la part d'Internet dans les modes de consommation, que ce soit en fixe ou en mobile, on met en évidence le fait que souvent on associe ce média au prix, parce que c'est une plus forte capacité à comparer les prix, comparer les offres. Et en les comparant, quelque part, on est sur la logique de solde permanente ou de remise permanente qui introduit dans l'esprit du consommateur que, quelque part, il peut aller chercher le prix ou en tout cas qu'il a un meilleur contrôle ou une meilleure capacité à aller chercher le prix. Et on voit d'ailleurs que dans le même temps, il y a un bon nombre d'industriels qui entament des démarches pour essayer de sortir de cette logique de démarque permanente et retrouver des logiques de full price pour mieux maîtriser finalement cette logique de prix.
Si on note dans l'étude un retour frileux, mais un retour tout de même à la consommation, il y a un secteur où la prudence reste de mise et c'est peut-être celui des loisirs. Sortir, être à l'extérieur, c'est encore dans la tête des consommateurs français, synonyme de risque. Et c'est encore plus vrai peut-être quand on leur dit est-ce que vous comptez aller à la salle de gym? Est-ce que vous allez prendre un avion pour voyager? Est-ce que vous allez participer à un événement comme un match, par exemple?
Oui, je pense que ça traduit aussi le fait que ça nécessite de se projeter dans un avenir probablement plus lointain pour réaliser ce type de dépenses. On va réserver un concert pour dans 6 mois, on va réserver un voyage pour dans 2 mois, et on ne sait pas forcément dans quelle situation sanitaire on sera. Et on a forcément appris aussi à considérer qu'on est dans un monde qui évolue assez vite et que le monde d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le monde de demain. Donc tout ce qui sont des dépenses qui projettent le consommateur dans un avenir plus lointain, sont des dépenses un peu plus discrétionnaires. Et je pense que celles-là, elles sont encore plus sensibles aujourd'hui que ne le sont les dépenses du quotidien.
Prudence, en fait, c'est un mot qui finalement illustre bien l'attitude des consommateurs français. Comme la seule certitude, c'est l'incertitude, il y a un moment donné où on reste prudent quand même, même si on est plus positif.
Si on fait un peu de retour arrière, il y a eu beaucoup de dépenses au moment des séances de confinement.
2020.
Voilà, qui avaient trait à la maison, l'intérieur, où chaque famille a pris le temps, un peu contraint et forcé, de s'occuper de sa maison. Et à l'été dernier, on a vu les ménages réinvestir des industries plus proches du tourisme ou des loisirs. Parce que justement, il était temps de passer un peu à autre chose et une volonté de ressortir dans la rue, d'avoir une vie un peu plus normale.
Il y avait des habitudes ponctuelles et des tendances peut-être un peu plus lourdes.
Ce qui est compliqué pour les industriels, je pense, de ces industries-là, c'est d'arriver à reconstruire des logiques de cycle qui ne sont pas forcément ceux qu'ils avaient l'habitude de connaître. C'est-à-dire que finalement, dans ces industries-là, il y a des temps, il y a des campagnes, il y a des saisons, il y a des promos en face de ces moments. Et ça, c'est plus la même chose aujourd'hui.
Et tout ça, ça a été complètement gommé par la crise Covid. Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire, tout réadapter.
Il y a une réadaptation nécessaire et effectivement, aussi dans une forme de new retail, puisqu'on est passé du quasiment tout magasin à beaucoup d'omnicanalité. Ce que montre l'étude, c'est qu'on est vraiment à l'avènement de l'omnicanal, également dans la logique de la consommation responsable. Le new retail marche aussi avec le sujet de la consommation responsable, qui effectivement veut dire des produits différents, peut-être avec des prix de revient plus chers, avec moins de promotions. Ça fait le lien avec le sujet de la seconde main qui sort dans l'étude de façon très très prégnante.
Il faut croire que ce qui était un mode de consommation qui nous a été imposé s'est petit à petit insinué dans notre quotidien. En télétravaillant davantage, on a pris de nouvelles habitudes et elles sont en train de changer durablement notre manière de vivre et d'acheter. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous allons cesser de descendre chercher nos croissants ou notre baguette au coin de la rue. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez l'évolution de notre consommation globale? La répartition entre le physique et le digital, c'est ça véritablement qui, après cette crise, a été totalement bouleversé?
Effectivement, ce qui nous frappe, c'est vraiment l'augmentation qui continue sur l'omnicanal. Et l'augmentation des ventes Internet qui continue de progresser avec, comme vous le soulignez, certains secteurs comme l'alimentaire, la beauté et la santé qui, elles, marquent un palier.
C'est donc une tendance qui va avoir tendance justement à s'installer durablement dans nos vies.
On aurait l'opportunité ou le loisir de se poser la question, de se dire finalement, est-ce que c'est le retour du magasin dès lors qu'on retourne dans la rue? Est-ce qu'on va arrêter de consommer sur Internet? Je pense que c'est pas ça la bonne façon de voir la façon de consommer. Le consommateur, finalement, lui, s'est habitué à ne plus avoir à se poser la question. Il a envie de consommer comme il a envie de consommer et de vivre l'expérience comme il a envie de la vivre. Et je vais prendre un exemple. S'il a envie de payer avec un certain nombre de moyens de paiement, il comprendra pas que c'est possible sur Internet. Et puis s'il va dans une boutique, il peut pas payer avec PayPal ou avec d'autres moyens de paiement un peu plus nouveaux ou alternatifs. Ce qu'il attend, finalement, c'est de se dire ce que j'ai connu comme liberté en étant chez moi le temps de ces confinements et qui a accéléré ces modes de consommation, on va dire, sur Internet au sens large, il s'attend à les retrouver dans les magasins et que le magasin lui propose autre chose, finalement, un certain nombre de services en plus. Ça peut aller sur du click and collect, ça peut être sur la remise des retours, ça peut être sur du conseil, ça peut être sur de l'extension de gamme. Voilà. Ce que le consommateur attend, finalement, c'est que l'entreprise elle ne soit plus orientée sur son offre et ses produits, mais qu'elle soit vraiment purement omnicanal, comme le disait Hélène, et qu'elle soit orientée vers lui, en fait. Le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas subir les problèmes que l'entreprise rencontre pour être capable d'avoir cette proposition.
Vous parliez tout à l'heure des produits de beauté. Ce qui apparaît très nettement, c'est effectivement que ce que nous achetons, nous préférons parfois l'acheter en magasin. Alors, j'ai parlé de la baguette parce qu'évidemment, nous sommes en France, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est frais, pour tout ce qui est épicerie, ou encore pour tout ce qui va concerner le soin. Il semble même que l'achat en magasin fasse son retour en force pour les produits de grande consommation. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Pour moi, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a quand même une forme de différence entre les générations. C'est-à-dire, le magasin garde son attractivité pour les personnes, les milléniums et les baby-boomers, vraiment sur des sujets autour de la largeur de gamme et autour du discount et de la promotion. Et ce qui est très intéressant, en revanche, que l'on voit dans l'étude, c'est que le magasin trouve son attractivité. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est sur des clients qui ont vraiment l'habitude de consommer sur Internet et de plus en plus sur Internet et sur du social commerce, etc. Enfin, là, le magasin trouve son attraction à travers l'expérience client qui est donnée en magasin, à travers des produits qui sont plus durables, à travers des produits qui sont plus qualitatifs. Et c'est ça, plus haut de gamme, c'est ça qui attire des personnes plus jeunes. Sur la génération Z, dans l'étude, ça se voit très nettement. C'est vraiment un nouveau magasin, une nouvelle façon de repenser le magasin qui attire des consommateurs plus jeunes, qui sont en fait des consommateurs plus aguerris et qui ont plus d'habitude d'être sur Internet.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin aussi de voir davantage, parce qu'on en a été privé, de sentir, de toucher, d'être en contact physique. Peut-être besoin de ce conseil, de cet aspect social du magasin ?
Ça questionne pour chaque entreprise qui dispose d'un réseau de magasins, de boutique, le rôle de ce magasin dans le parcours, avec plusieurs options finalement. Est-ce que c'est un endroit de service, ça peut être du conseil sur les produits, ça peut être une capacité à ouvrir sur le reste du catalogue, ça peut être sur des services purement logistiques.
Et ça apparaît d'ailleurs dans l'étude, cette notion de service.
Voilà, ça c'est une option. Ça peut être une option autour de l'expérience aussi, c'est de se dire finalement, on s'attend à ce que quand on arrive dans un magasin, il se passe des choses. On voit aujourd'hui dans les grands magasins, tous les jours, il y a des masterclass, il y a des événements. Il faut que quand le client vienne dans le magasin, il y trouve quelque chose, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Et puis, on peut avoir des logiques de showroom aussi. Finalement, on se dit, ce magasin, il est une façon d'exposer ma marque. Je suis clair avec le client que je n'aurai pas tout le catalogue, mais c'est pas grave, je peux vous ouvrir l'ensemble de mon catalogue au travers de votre présence dans ce magasin. On voit qu'il y a plusieurs options. Le sujet, ce n'est pas tant de dire finalement je choisis l'une ou l'autre, c'est plutôt de se dire comment je peux repositionner ça dans un parcours client qui, lui, doit être omnicanal. Finalement, c'est nos canaux, nos géographies.
Ça veut dire que le client, aujourd'hui, il ne veut plus avoir à faire la différence entre ce qu'il va acheter dans le magasin physique et dans le e-commerce.
Oui, et en même temps, ce qu'explique Mathieu, c'est vraiment que le client attend sur un achat internet ou sur un achat physique, et potentiellement, c'est le vrai sujet du magasin, une expérience différente en magasin. Parce que finalement, si c'est si facile d'acheter sur internet, pourquoi je me déplace en magasin ? Effectivement, sur certains produits, j'ai besoin. Voilà, il faut que j'ai un plus quand je vais en magasin. Il faut que j'ai une expérience qui soit très particulière. Et puis, je peux aussi avoir envie, dans le magasin, de trouver une expérience digitale puisqu'elle peut aussi me faciliter la vie, c'est-à-dire je peux toucher un produit ou je peux sentir un produit, et puis derrière, il peut être livré directement, ou je peux revenir le chercher dans 2 heures, parce que je peux ne pas attendre d'avoir tous les produits dans le magasin comme j'ai tous les produits sur Internet. Mais effectivement, c'est la tentative des magasins qu'on appelle Figito.
Donc c'est une nouvelle manière aussi de fidéliser la clientèle.
Vu du consommateur, effectivement, le magasin ne doit pas être ce qu'il était hier. En revanche, il ne doit pas être un frein non plus. C'est-à-dire que la particularité, c'est que si je vais dans un magasin qui, par définition, a une surface limitée, 400 000 m², et que je ne vais pas pouvoir exposer l'ensemble des produits et un catalogue illimité comme c'est le cas sur Internet, à défaut de ne pas tout trouver, je m'attends à ce que le vendeur soit en capacité de me proposer l'ensemble des produits, de me conseiller sur ce qui n'est pas en magasin, de me le faire livrer chez moi. C'est toute une difficulté, toute la difficulté pour les industriels, c'est que finalement, il faut proposer en magasin ce qu'ils proposent quand on est chez nous, et en mieux.
Est-ce qu'en fonction de la tranche d'âge, on vient chercher la même chose dans les magasins ? Les plus jeunes se déplacent quand ils doivent acheter manifestement des produits de luxe, ou alors quand ils cherchent des produits éthiques, éco-responsables ?
Oui, effectivement, parce que en fait, s'ils cherchent quelque chose de standard ou qu'ils connaissent ou qui est plus de consommation courante, finalement, c'est tellement facile pour eux de l'acheter sur Internet qu'ils ne vont pas faire l'effort de sortir pour avoir cette expérience, en fait. Et effectivement, générationnellement, on voit que des personnes plus âgées, elles vont en magasin pour chercher de la promotion, du discount, une largeur de gamme.
C'est très vrai ce que vous dites, parce que les consommateurs français sont friands d'une grande offre, d'un grand choix avec des prix attractifs qui vont leur permettre effectivement de faire ces fameuses affaires, et ils misent moins, et ça aussi c'est un enseignement, parce qu'on a pu penser pendant un temps que ça allait durer, ils misent un peu moins que pendant la crise sur la défense du local.
On est dans la schizophrénie classique qui est que on voit le retour du local et du made in France comme un sujet déclaré, une intention déclarée des consommateurs, et en même temps ils nous témoignent des freins ressenti à cette bascule, freins qui peuvent être sur le prix, parce qu'ils ont tout à fait le sentiment que ça va ou ça peut s'accompagner d'une augmentation de prix, et des sujets de traçabilité dont on pressent que ça va être un gros enjeu pour les entreprises d'être en capacité de répondre à ces enjeux de traçabilité et de transparence. En fait.
Dans l'étude, on voit quand même que 30% des consommateurs disent « si je pouvais acheter, s'il y avait des gammes plus larges de produits locaux, de produits français, j'achèterais plus ». Et il y a quand même 50% des gens qui disent « mais le prix est un frein ». Il y a aussi une frange de population pour laquelle le prix n'est pas forcément un frein, on le voit dans l'étude. Et donc ça veut dire aussi pour nos clients, ce sont des poches de rentabilité et des parts de marché sur lesquelles il y a accès à une clientèle avec des marges potentiellement à maintenir ou à créer.
On a vu un certain nombre d'entreprises, et je pense que ça va s'accélérer, s'engager sur le chemin de la transparence et de la traçabilité. Traçabilité jusqu'à être capable de dire, en scannant le QR code de mon produit, vous allez pouvoir savoir combien de kilomètres il a parcouru, sa composition, à quel endroit il a été fabriqué. Et ça, ça ne va pas être possible tout de suite, en tout cas sur toutes les références, mais on peut imaginer qu'à l'horizon 2025, en tout cas c'est ce qu'un certain nombre de groupes annoncent, ils seront en capacité de le faire. Et de l'autre côté, on voit des groupes s'appuyer sur des labels, alors soit des labels on va dire certifiés par d'autres, soit des propres labels qui d'ailleurs parfois font objet de débats et qui sont légitimes, mais pour se dire finalement je score quelque part.
Ces nouveaux consommateurs vont-ils encore modifier leur comportement d'achat? C'est la question que se posent les enseignes notamment et les commerçants qui sont forcés d'adapter leurs propositions. On voit émerger désormais de nouvelles envies, de nouveaux besoins qu'il va falloir prendre en compte pour ne pas baisser le rideau. Le magasin de demain, alors, est-ce qu'il est physique? Est-ce qu'il est digital? Est-ce qu'il est hybride? C'est un mot qu'on voit apparaître dans cette étude hybride, justement. Il est déjà là d'ailleurs, ce magasin hybride en quelque sorte.
Oui, l'enjeu de l'omnicanalité, c'est d'offrir une expérience totalement fluide entre l'expérience digitale et l'expérience en magasin. Donc, arriver à réellement atteindre cette fluidité, c'est un vrai challenge opérationnel, logistique, technologique. Mais c'est un sujet sur lequel énormément de nos clients travaillent, effectivement.
Pourquoi c'est un challenge? Parce que c'est nouveau aussi pour les enseignes?
Parce qu'elles avaient construit historiquement leur mode de fonctionnement, leur système d'information, tout sur un canal et construit autour de l'offre et du produit. Et finalement, on leur dit maintenant, c'est plus un canal, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est le client, quel que soit l'endroit où il consomme, la façon dont il agit, il faut le suivre en fait. Et donc, on est passé d'un modèle, on va dire monocanal à multicanal, ou là, omnicanal, c'est-à-dire que quel que soit le moment de vie, on veut pouvoir vivre l'intégralité de l'expérience, qu'elle soit la même et la plus riche possible.
La nouveauté finalement dans ce nouveau monde du commerce, c'est que tout le monde joue avec les mêmes cartes, que ce soit le magasin traditionnel ou le nouvel acteur qui vient d'arriver sur le marché. Tout le monde doit opérer une mue, pas forcément la même, mais en tout cas doit s'adapter aux nouveaux besoins.
Alors je distinguerais les nouveaux modes de consommation. Je vais prendre un exemple, ce qu'on appelle le quick commerce, c'est-à-dire le fait de se dire, moi je veux pouvoir être livré dans 10 minutes d'un certain nombre de choses, et donc l'arrivée des acteurs en France qui vous font cette proposition, ce qui d'ailleurs est quelque chose qu'on n'imaginait pas et qui est probablement une des tendances, c'est de se dire, on pensait que finalement il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de frontière, hop voilà, maintenant je ne vais plus être livré en 30 minutes, je vais être livré en 10 minutes. Ça c'est nouveau et c'est vrai pour tout le monde. Et après vous avez quand même une différence entre des marques qui se sont construites sur le digital, on en parle de digital native, donc DNVB. Maintenant, on va même plutôt parler d'ONVB, c'est-à-dire Omnicanal Native Brand. Et finalement, celles-là, elles ont quand même un avantage, c'est qu'elles se sont pensées avec cette réalité par rapport à des acteurs beaucoup plus anciens qui doivent faire évoluer leur mode de fonctionnement.
Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux et on en a parlé notamment pour les jeunes qui consomment depuis leur smartphone. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir prendre en considération dans les années qui viennent parce que ça apparaît clairement dans l'enquête.
Ah oui, là, c'est un des sujets très très clairs de l'enquête, c'est que excluant les baby-boomers, on a plus de 50% des personnes qui disent avoir eu une expérience d'achat sur des réseaux sociaux dans les 6 derniers mois. Ce qui veut dire qu'effectivement, donc ça veut dire des achats sur Instagram, sur TikTok. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement différent et ça demande aux industriels et aux marques d'adapter complètement leur réseau de distribution. Et donc vous parlez de la nécessité d'adaptation, là on est en plein dedans et on parle de SaaS et puis bien entendu la frontière, la suivante, c'est le sujet du métaverse, de savoir voilà, effectivement comment est-ce que c'est la nouvelle frontière, est-ce que c'est un vrai Eldorado ou est-ce qu'au contraire voilà.
Oui, nous n'en sommes finalement qu'aux prémices parce que vous l'avez dit, l'arrivée du métaverse, on peut même considérer que le métaverse est déjà là, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont engagés dans le métaverse. Ça veut dire que là encore, l'expérience client va changer, contraindre les commerces à revoir leurs copies. Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Est-ce qu'ils s'y préparent?
Alors, ils sont effectivement en train de se préparer à ce sujet-là, en ayant à la fois un sujet de sensibilisation de leurs équipes à ces sujets-là, de leurs équipes à la fois de vente, de marketing, d'interaction client, hein, vraiment de voir comment il faut qu'ils s'organisent. Certaines entreprises ont des spécialistes du métaverse, d'autres clients nous demandent des présentations. Ce sujet-là, il fait le lien énormément avec les NFT et la blockchain, hein, donc de pouvoir faire le lien entre les crypto-monnaies, le métaverse. Et les vrais sujets sur lesquels se préparent nos clients, c'est de voir l'hybridation entre le monde du métaverse, mais également le monde réel, et de profiter en fait du métaverse pour donner une expérience client particulière. Aujourd'hui, ce sont les prémices, mais je pense que ça peut accélérer de façon substantielle sur certaines activités, c'est très clair.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est passé assez vite d'une situation où l'écosystème regardait les métaverses en disant encore un truc là, nouveau, qui arrive, ça a l'air un peu fumeux, à une réalité qui est tout le monde a bien conscience qu'il faut regarder sérieusement le sujet, conscient du fait qu'il ne faut pas faire la même erreur que sur le e-commerce il y a quelques années et qu'il ne faut pas passer à côté du train, quoi. Donc je pense que tout le monde a investi le sujet. Est-ce que ça décollera vraiment? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Ça peut prendre plusieurs formes, comme le disait Hélène. Ça peut être un vrai monde en soi, avec déjà quelque part une forme de consommation responsable ultime, où finalement tout est digitalisé et là, il y a moins de sujets de consommation responsable. Et puis, ça peut aussi venir enrichir finalement l'expérience par ailleurs qu'on a physiquement. Je prends un exemple. On peut donner au travers des NFT un certain nombre de produits, au travers des programmes de fidélité qui font qu'on est à la frontière entre le physique et le virtuel, mais pour autant, le client, il est intéressé à bénéficier de NFT, donc de produits uniques, virtuels, au travers du programme de feed. Et ça ne change pas le fait qu'il ait une relation physique avec la marque.
Est-ce que le client, le consommateur français, il se rend compte de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il est préparé déjà à mettre les pieds dans le métaverse et faire ses fameuses expériences clients virtuelles? Ça reste pour l'instant à la marge.
Oui, il y a un effet générationnel très net, mais je pense que certains acteurs sont en train de pousser pour réaliser des situations hybrides entre du métaverse et du réel. Si on prend par exemple l'idée de faire des défilés de mode dans le métaverse, on peut imaginer les économies substantielles que ça donne, hein, si on a une logique de développement durable et de réduire une empreinte carbone. Donc c'est une façon extrêmement responsable de réaliser des défilés de mode et donc d'être présent en 3D dans la diffusion et la présentation de certaines collections. Et puis par ailleurs, d'avoir, c'est là où je parle d'hybridation, hein, d'avoir une réalité derrière d'un cocktail, d'échange, de toucher des matières, enfin des choses différentes qui ne peuvent pas forcément aujourd'hui se faire exactement de la même façon dans le métaverse. Donc beaucoup d'innovation, mais il y a un effet générationnel très clair, puisqu'on est, c'est le lien entre le gaming et la consommation en fait. Hein.
Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on a ce saut en avant, si on parle du métaverse, et puis on a cette espèce de retour en arrière, si on pense à la location de matériel. Vous parliez de schizophrénie tout à l'heure, ça en fait partie?
On est complètement là-dedans, et je pense peut-être retraduire ça par une logique de personnalisation. On a finalement une forme de démoyennisation de la consommation, où il faut être capable de parler à chacun des consommateurs dans l'état dans lequel il est. Certains voudront consommer local, louer, arrêter de posséder, et d'autres voudront être dans le monde virtuel 100% du temps. Et la grande difficulté pour les marques, c'est d'arriver à parler à tout le monde en même temps, avec des discours différents, des offres différentes et des expériences adaptées.
Ce qui est aussi assez étonnant, c'est que si on se donne rendez-vous dans un an ou dans deux ans, on va voir apparaître côté consommateur, de nouvelles donnes aussi. Parce que vous en parliez, et ça apparaît dans l'enquête, les consommateurs sont prêts à vendre leurs données personnelles directement aux marques. Ça, c'est complètement nouveau aussi. C'est un phénomène qui n'existait pas ou qui était peut-être à la marge dans les enquêtes précédentes.
Effectivement, c'est un point qui ressort de façon très saillante dans l'étude. C'est que la confiance dans le traitement de la data pour tous les consommateurs est vraiment un socle indispensable pour faire confiance à la marque. Et donc, la qualité du traitement de la data par les marques devient un critère essentiel. Mais effectivement, comme vous le dites, y a une polarisation entre les comportements des consommateurs relatifs à leur data. Donc, les générations les plus anciennes qui se disent « je veux être protégée, je ne veux pas que ma data soit vendue, commercialisée ». Et puis, des générations plus jeunes qui se disent « mais ma data, c'est l'occasion d'avoir une expérience client unique, plus personnalisée ». Et puis derrière, de récupérer des systèmes de discount et de rabais et de promotion en fonction de la data que j'ai donnée. Donc, c'est une forme de commercialisation individuelle de la data qui est très, très appréhendée par les générations les plus jeunes.
Ça, c'est quelque chose que, à la fois, les consommateurs commencent à voir apparaître et peut-être aussi qui oblige les marques à se remettre en question sur la manière dont elles doivent commercer sur cette fameuse data.
Donc, il y a cette dichotomie qui est des personnes plus jeunes qui sont prêtes à lâcher cette data, mais qui sont soucieuses de ce qu'elles auront en face. Et ensuite, on a...
Il y a une contrepartie
qui doit s'opérer. Et ensuite, on voit qu'il y avait, quand même une prise de conscience des distributeurs donc, qui possèdent la data, puisque c'est eux qui interagissent avec les consommateurs, que cette data, elle avait de la valeur et qui ont mis en place un certain nombre d'activités dites de retail media, c'est-à-dire qui commercialisent cette data pour en tirer meilleur profit vis-à-vis des marques qu'elles distribuent. Ça, c'est potentiellement questionné par le fait que les consommateurs finaux, ils disent bah, « moi, je veux avoir des rabais et autres », et qu'ils sont prêts à donner la data à d'autres, voire aux marques qui sont distribuées. On pourrait rajouter à ça le fait qu'on va arriver vers la fin des cookies tiers, donc c'est-à-dire que ces distributeurs ne vont plus avoir accès à toutes les datas dont ils bénéficiaient préalablement, et puis que d'un point de vue réglementaire, on voit que ça commence à bouger. Donc ce sujet de la data et l'utilisation de la data, il est probablement à l'aune de changements assez notables dans les mois et les années qui viennent.
En fait. Et la logique de la mise en place de systèmes omnicanaux avec des cartes de fidélité ou une autre façon de gérer la data, c'est effectivement pour les industriels un vrai enjeu de savoir comment je capture ma donnée et comment je ne crée pas forcément de friction avec aujourd'hui la distribution qui me commercialise cette donnée. Donc il y a effectivement des questions complexes sur ce sujet et une adaptation très forte qui est faite par les industriels effectivement pour collecter cette donnée et redonner éventuellement de la valeur aux consommateurs.
On a vu avec les crises Covid certains prix flamber sur les matières premières. On s'aperçoit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie et d'une certaine manière entre la Russie et une grande partie du reste du monde, l'Europe, la France, qu'il y a une dépendance sur le gaz mais sur aussi d'autres produits. C'est une situation qui risque aussi d'avoir une incidence sur la manière dont on va consommer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent.
Oui, très clairement. Le sujet de la crise en Ukraine, c'est un sujet bien sûr humain avant tout, mais pour tous les industriels, c'est un sujet d'approvisionnement extrêmement stratégique. C'est un sujet commercial avec le sujet des sanctions économiques. Et c'est un sujet de logique de qu'est-ce que je fais de mes magasins avec des logiques d'inflation sur un certain nombre de prix. Et on peut avoir des questions au-delà du territoire français de se dire voilà, que deviennent mes magasins en Ukraine, en Russie. Donc énormément de questions qui effectivement sont portées par la crise, bien entendu.
Et côté consommateur, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur ce qu'on va acheter, la manière dont on va consommer, une prudence peut-être sur certains produits?
Je pense qu'il y a deux façons de voir la question. Il y a une question sur l'autonomie et la souveraineté autour d'un certain nombre de catégories de produits qui pourraient être touchés.
Avec la volonté de réindustrialiser, voilà, de racheter français.
Voilà, et ça,
plus.
Je pense que ça va accentuer ou augmenter les questions autour du local et du Made in France et de la transparence, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer pourquoi, si tel et tel produit est réinternalisé, on y gagne une forme d'autonomie, mais on, vu du consommateur, on peut y perdre ou ça peut s'accompagner de sujets de prix. Et puis, à côté de ça, on a un autre sujet qui est-ce que ça va ou pas changer les tendances de consommation? Et là, je serais tenté de dire que la crise du Covid, elle a plutôt démontré qu'on accélère les tendances et la transformation plus qu'on ne la bouleverse. On a parlé au moment du Covid du new normal, où on disait c'est quoi le monde d'après. Le monde d'après, c'est le monde d'avant deux fois plus vite.
L'inquiétude ambiante, bien entendu, va rajouter à la prudence qui est dans l'ADN française. Donc, mais sinon, on est dans l'accélération de ces sujets de consommation locale et de consommation responsable qui va être accélérée effectivement par cette crise qui va mettre un point fort sur le coût des matières premières, bien sûr.
Ce qui apparaît peut-être désormais dans notre façon de faire, c'est un retour au sens littéral, étymologique de ce qu'était finalement la consommation. L'action d'utiliser un produit, un bien ou un service dans le but tout simplement de répondre à un besoin. Or, en rembobinant l'histoire récente de nos sociétés, on s'aperçoit que cette consommation de masse, qui semble à l'aube d'une révolution, avait émergé au milieu des années 50. Nous étions, souvenez-vous alors, en pleine guerre froide. Hélène Rive, Mathieu Aubusson de Cavarlet, merci. On va évidemment retrouver tous les détails de cette étude sur pwc.fr.